France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour Mazette, quelle musique ! Comme tous les troisièmes dimanches du mois, notre promenade musicale d'aujourd'hui suivra un thème vie pratique, vie quotidienne. L'émission d'aujourd'hui aurait d'ailleurs pu être parrainée par le magazine Hautes et Travaux ou la revue Homme Actuel, car le thème du jour, dont l'intitulé nous a été soufflé par Saint-Augustin lui-même, est « Coud et fais ce qu'il te plaît ». Coud, C-O-U-D-S, du verbe « coudre ». Nous sommes en Grèce, il y a plus de 26 siècles, à Mytilène sur l'île de Lesbos, lieu de tant de détresse de nos jours. La lune et les Pléiades sont déjà couchées. Il est minuit, le temps passe, mais moi je dors seul. C'était une reconstitution très informée du chant d'un poème de Sappho, discrètement accompagné au barbiton. Le barbiton, c'est l'espèce de lyre que l'on voit jouer par Sappho sur les vases du 5e siècle avant notre ère. Et le barbiton était l'un des instruments des aèdes, les poètes lyriques comme Homère, et surtout des rhapsodes qui étaient des chanteurs-interprètes itinérants. La couture, je ne vous apprends rien, est l'art d'assembler des pièces avec des points de fil, pièces d'étoffe, de tricot, de cuir, etc. La musique est l'art d'assembler les sons. C'est ce que dit le terme de rhapsode ou de rhapsodie. En grec ancien, la rhapsodie, c'est le chant, ode. Cousu, du verbe rapto, le chant cousu donc. Coud et fais ce qu'il te plaît. Alors pour éviter trop de déceptions, disons d'emblée ce qui ne sera pas dans notre promenade du jour. Chanson, chanson. Nous n'écouterons pas, en tout cas pas aujourd'hui, le beau mais très étroit répertoire des chansons de toile du XIIIe siècle, écrites dans le nord de la France, sur le thème de la haute dame qui coud en chantant une histoire d'amour. Pas plus de répertoire savant et populaire des chansons d'histoire ou d'atelier du XIXe siècle, ce sera pour une autre émission. Nous ne rendrons pas plus d'hommage non plus aujourd'hui aux couturiers et couturières, toutes celles du monde de l'opéra notamment, les ateliers de couture qui sont le lieu de tant d'art et d'exploits. La couturière d'ailleurs, c'est le nom que l'on donne à la pré-générale, l'avant-dernière répétition, où il est encore temps de faire les dernières retouches des costumes. Nous n'écouterons pas plus aujourd'hui les œuvres lyriques inspirées par la couture. Pas le jour non plus des dentelières, ni celui des gantières, les vraies fausses veuves de colonel, ni celui des cordonniers, pas même les cordonniers maîtres chanteurs de Nuremberg. Pas d'hommage non plus à la musique délicate des machines à coudre et autres surjeteuses, même si cette musique en a inspiré plus d'un, explicitement ou non, et pas des moindres, par exemple Moussorgski ou Bartok ou Jacques Ibert. Rien de tout cela donc, mais le plaisir de la couture musicale, du libre assemblage des sonorités, des timbres, des rythmes, des mélodies, le plaisir de la musique. Par exemple, de ces deux petites minutes assemblées note à note avec un bonheur extraordinaire par un artisan déjà maître, il y a presque 70 ans, avant l'artisanat furieux, le prélude du marteau sans maître du jeune Pierre Boulez. Quelle musique! coups et fais ce qu'il te plaît. Nous allons donc vagabonder paisiblement parmi les musiques assemblées par des artisans géniaux de l'art musical, en toute liberté, en faisant ce qui leur plaisait, sans règles fixées à l'avance, sans suivre un schéma formel préexistant. Et Dieu sait si à toute époque, de tels schémas formels ont prévalu. Schémas auxquels les mêmes compositeurs se sont conformés pour la plupart de leurs œuvres. Des canons, des fugues, des formes en rondeau, refrains et couplets, des variations sur un thème, des formes ternaires, A, B, A, telles qu'un aria da capo, des formes en arche, façon menuet, trio, menuet, par exemple, ou bien la forme sonate, exposition de deux thèmes bien contrasté, développement des deux thèmes, puis réexposition, etc., etc. Forme libre aujourd'hui donc, sans schéma prédéfini, liberté absolue, mais l'invention sans cadre ne signifie pas pour autant la facilité. En 1930, Maurice Ravel écrit le mouvement lent Adagio assai de son concerto en sol, phrase infinie, mélodie ininterrompue pendant une dizaine de minutes, musique intemporelle, en apesanteur, sereine, lumineuse. Et le compositeur lui-même a mis en garde les musicographes et auditeurs à tendance extatico-mystique. C'est un pur divertissement, il ne faut pas faire sur ce concerto des hypothèses prétentieuses, a-t-il dit. Une phrase unique donc, sans forme préexistante, la main gauche scande un rythme ternaire, comme une valse, la main droite chante d'abord sur un rythme binaire, avant de s'émanciper, puis de nous conduire on ne sait où, mais on suit totalement, une seule phrase écrite en toute liberté que l'on croirait écrite d'un seul jet. La grande Marguerite Long, dédicataire et créatrice de l'œuvre, se plaint à Ravel de la difficulté de tenir cette phrase, de soutenir l'expression intense d'une mélodie si longue, sans précédent, dans un mouvement si lent quand on veut garder à la phrase qui coule. La phrase qui coule, l'interrompt Ravel, la phrase qui coule, je l'ai écrite deux mesures par deux mesures et j'ai failli en crever. Et Ravel ne cessera de dire que cet assemblage qu'il a cousu point à point, mais que l'auditeur entend comme un flux sans couture, l'avait épuisé. Dur labeur que la couture en toute liberté, mais quelle musique!
Thank you.
coup et fais ce qu'il te plaît. Cela aurait pu être la devise de tous ces compositeurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, reconnus pour leur maîtrise éblouissante des formes contraintes, le contrepoint, les rythmes de la danse, l'art religieux, etc., mais qui stupéfièrent aussi leurs contemporains et les siècles suivants par la beauté d'œuvre qui donnait l'impression non seulement d'une improvisation, mais aussi d'une déconcertante facilité d'invention, de renouvellement dans l'assemblage, la couture, d'éléments très variés, très contrastés, très divers. Pour le c'est le plaisir de la beauté musicale et en plus les délices de la surprise. Petit festival que nous commençons en Italie avec Girolamo Frescobaldi, Ferrare d'origine. En 1608, il a à peine 25 ans, il remporte le concours pour être organiste de la basilique Saint-Pierre de Rome et il en sera l'organiste titulaire jusqu'à sa mort en 1643. Grand compositeur d'œuvres vocales, religieuses ou non, il est surtout, tout siècle confondu, le plus grand compositeur italien pour le clavier, à son époque l'orgue et le clavecin. Le dernier d'ailleurs parmi les grands, à une époque où l'opéra profane est sacré et le concerto émerge et vont très vite établir leur suprématie dans la péninsule pour tous les siècles suivants. La réputation de Frescobaldi en Europe était spectaculaire, non seulement pendant sa vie, mais au cours du siècle suivant. Les partitions de Frescobaldi circulaient sur tout le continent et il était reconnu pour sa maîtrise des formes canoniques, notamment les Richard Carré. Mais si on allait à Rome pour l'entendre, pour se mettre à son école, si on se disputait éditions et copies manuscrites de ses œuvres, c'était avant tout parce que dans les œuvres libres, notamment dans les fantaisies et les toccatas, son style très personnel, stupéfié par son art d'assembler des épisodes, avec une inventivité débridée, des ruptures brusques de ton, de registre, de rythme, une imagination mélodique et harmonique sans pareil. Nous écoutons maintenant au clavecin la 7e toccata du second livre de 1627.
Thank you.
En France, à la même époque et jusqu'au premier XVIIIe siècle, l'art de l'assemblage musical où prime l'imagination, la succession bien agencée d'épisodes contrastés, se développe notamment dans les préludes, parfois très libres, même dépourvus de mesures, qu'écrivent les luthistes, les théorbistes, les clavecinistes. Préludes qui décontenancent et ravissent l'auditeur. Par exemple, ce très court prélude qui ouvre une des suites pour théorbe en sol mineur de Robert de Vizet. Robert de Vizet était à l'époque très célèbre, maître de guitare de Louis XIV, musicien de sa chambre, et à travers son maître Francesco Corbetta, il connaissait parfaitement les œuvres de Frescobaldi. C'est du grand art français très bien cousu. Principaux héritiers de Frescobaldi dans cet art du coup et fais ce qu'il te plaît furent ses élèves venus du nord des Alpes. Froberger, personnalité centrale de l'Europe musicale du XVIIe siècle, appréciée en France, en Italie, en Hollande, en Angleterre, dans les pays germaniques. Kerl, bavarois qui repartit en Bavière avec tout l'art frescobaldien. Et puis Franz Thunder, qui revint à Lübeck, grande ville de la Hanse, en Allemagne du Nord, et qui transmit ce qu'il avait appris de Frescobaldi à son successeur Dietrich Buxtehude, le plus grand compositeur allemand entre Heinrich Schütz et Jean-Sébastien Bach, et le maître du Stilus Fantasticus. Qu'est-ce que le Stilus Fantasticus? Le jésuite Athanasius Kircher, qui inventa le terme en 1650, le définit ainsi. Le Stilus Fantasticus est la plus libre, la moins contrainte des méthodes de composition. Elle n'est soumise à rien, ni aux mots, ni aux sujets harmoniques. Elle a été créée pour montrer son habileté, pour révéler les règles secrètes de l'harmonie, l'ingéniosité des conclusions harmoniques et l'assemblage fugué. Et un siècle plus tard, Matheson, compositeur et grand théoricien allemand, complète cette définition en ajoutant toutes sortes de progressions par ailleurs inaccoutumées, de tours et de colorations ingénieux sont amenées sans souci d'observer la mesure ou la tonalité, sans thème ni ostinato formel, ou sujet ramené à bien. Ici rapide, là hésitant, tantôt à une voix, tantôt à plusieurs, et de temps à autre sans mesure du son, mais non sans se montrer tout entier résolu à plaire, à surprendre et à étonner. En bref, mais Athanasius Kircher et Johann Matheson n'écoutaient manifestement pas France Musique, le Stilus Fantasticus, c'est vraiment coup et fais ce qu'il te plaît. Démonstration immédiate avec ce prélude et fugue et chaque cône de Buxtehude. Le titre laisse penser que l'œuvre a trois parties bien distinctes. En réalité, parfaitement assemblées, l'auditeur entend non pas trois sections, mais six enchaînées, comme dans la Bohémienne Rhapsody. Un splendide trait de pédalier, dans lequel je me souviens avoir entendu le grand organiste Michel Chapuis dérailler complètement, puis un développement libre et virtuose à la main droite, un mouvement fugué très enjoué, une improvisation comme une toccata alla Frescobaldi, puis la chaconne, 8 variations d'un thème, proche du sujet de la fugue, et enfin 5 mesures d'une coda survitaminée. Nous écoutons Michel Chapuis dans un excellent jour sur l'orgue Kern de Saint-Maximin de Thionville, cet étourdissant Stilus Fantasticus. Quelle musique ! Dernière étape de notre petit festival européen du coup et fais ce qu'il te plaît au XVIIe et XVIIIe siècle, Bach. Incontestable héritier de Buxtehude dans le Stilus Fantasticus, mais aussi dans l'art de l'assemblage d'un patchwork inventif, comme nous allons l'entendre, non pas au clavier, mais avec une œuvre vocale. Il s'agit d'un extrait de L'Actus Tragicus, la cantate numéro 106, un des grands chefs-d'œuvre de Bach, qui n'a que 22 ans à sa composition. Le texte chanté est un montage d'extraits de la Bible, sans doute de la main de Bach lui-même. Air du ténor, apprends-nous à considérer que nous devons mourir. Air de basse, la Vox Christi, la voix de Dieu, mets ta maison en ordre car tu dois mourir. Cœur, c'est la vieille alliance, l'Ancien Testament, tu dois mourir. Et en même temps, appel de plus en plus pressant du soprano, oui, viens Seigneur Jésus, comme Air Jésus comme, qui termine seul à découvert par une vocalise poignante sur Air Jésus. On pourrait longuement analyser cet extrait qui révèle un art musical extraordinaire au service d'une rhétorique aussi bien théologique que très humaine. La mort est inéluctable, mais je vous propose d'aller directement à la musique et d'entendre cet assemblage d'affects musicaux très différents, de figuralisme saisissant, notamment sur le mot « mourir »,« sterben » en allemand, et cette fin inouïe du soprano comme un dernier souffle qui débouche sur le silence. C'est un enregistrement qui a son âge, 42 ans, ce sont d'émouvantes voix d'enfants pour le registre supérieur, les admirables musiciens Amstello Damois de l'époque réunis autour de Gustav Leonhardt, notamment le flûtiste Franz Bruggen, le gambiste Jaap ter Linden et la Vox Christi, et celle inégalée dans ce registre, me semble-t-il, de Max von Egmont.
Bestell dein Haus,
avec de belles coutures bien apparentes dans le prélude de Buxtehude, ou sans couture visible, comme dans cette cantate Actus Tragicus de Bach. Plus de deux millénaires après les rhapsodies grecques, il s'agit toujours de chants cousus de rhapsodie. Les ouvrages savants nous disent que le terme rhapsodie était utilisé de manière très péjorative pour désigner quelque chose de mal fagoté, décousu, un écrit désordonné et absurde, et qu'il faut attendre 1813 et monsieur Thomasek, honorable compositeur allemand et prix de l'Antiquité, qui le premier publia des rhapsodies, en l'occurrence pour le piano. Pourquoi oublier un excellent faiseur de mélodies très apprécié en Allemagne et à Vienne, Johann Friedrich Reichardt, qui composa vers 1790 cette très belle rhapsodie.
Menschenhass aus der Fülle der Liebe trank. Erst verachtet, nun ein Verächter, zielt er heimlich auf seinen eigenen Wert in ungenügender Selbstsucht. Ist auf deinem Psalter Vater der Liebe, ein Ton seinem Ohre vernehmlich, so erquicke, so erquicke sein Herz. Öffne ihn umwelkt Quellen neben dem Dürstenden in der Wüste.
Belle musique, je trouve, admirablement servie par Dietrich Fischer-Dieskau, accompagnée au pianoforte par Jörg Demus. Une œuvre très Sturm und Drang, avec une vraie versatilité dans les affects et déjà la puissance du romantisme dans la musique, comme dans le texte de Goethe, dernière strophe du Voyage dans le Harz en hiver. Ah, qui peut guérir les plaies de celui qui a bu la haine du genre humain à l'abondance de l'amour? S'il est sur ton psaltérion, père de tout amour, un son que son oreille puisse entendre, alors fait renaître son cœur, etc. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ce sont les mêmes vers sur lesquels Brahms, 80 ans plus tard, écrivit sa rhapsodie pour alto et cœur d'homme, que nous écoutions il y a quelques dimanches, avec cette fameuse mélodie que Brahms glissait sous son oreiller. Le monde est petit! Rhapsodie du chant cousu, donc. Et outre la rhapsodie pour alto, Brahms donna ce titre de rhapsodie à trois œuvres pour piano, les deux très belles rhapsodies de 1879. Mais on sait que si Brahms finit par les intituler rhapsodies, c'est parce que la dédicataire, Elisabeth von Herzogenberg, sans doute très influencée par le succès des rhapsodies hongroises de Liszt, avait beaucoup insisté. Et puis en 1893, la rhapsodie, la quatrième des pièces pour piano de l'opus 119, qui est en fait une ballade. En revanche, il est une œuvre « Coup et fais ce qu'il te plaît » dans laquelle Brahms se livre par une musique qui avance pas à pas, sans suivre un modèle préétabli ou une forme canonique, une musique vraiment pleine de liberté, assemblage parfait, sans couture visible, d'affect, d'état d'âme, très divers, réminiscence de moments douloureux sans doute et d'autres d'une jubilation intérieure tranquille, le tout sur un ton très intime, en rien solennel, comme une confession à fleur de peau. C'est le mouvement lent adagio du premier concerto de Brahms. Nous allons l'entendre et même l'écouter et nous laisser saisir par cet adagio joué avec quel engagement et quel art par Nelson Frère. Nelson Frère nous a quittés le jour de la Toussaint, il y a 3 semaines. Il est accompagné par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, magnifiquement tenu par Ricardo Chailly. C'est une musique que je trouve sublime, écrite par un Brahms de 25 ans. C'est à la fois le tombeau de Robert Schumann, auquel le mouvement est dédié, comme un hommage posthume, et aussi l'empreinte de l'attachement de Johannes Brahms pour Clara Schumann. Une musique profonde, très libre, au-delà de toute contrainte de choix tonal, de rythme, de forme, comme improvisé, rhapsodique, mais avec la gravité d'une confidence, d'un aveu fait à soi-même, à l'autre, au monde.
Thank you.
sur le coup de 3 heures. Quod libet, littéralement, ce qui plaît, ce qui me plaît, ce qui nous plaît. Même avec un titre en latin, rien ne garantit, autant vous le dire d'emblée, que nos badineries d'aujourd'hui aient de la tenue, car vous l'entendez derrière moi, rien ne garantit que notre public, vu son état, va savoir se tenir.
Ist es Freund oder Feind, oder wie ist es gemeint?
Was muss ich vom Vögelblicken sagen, hier ein Tod bereit?
Trägt ein großes Rad am Rücken, der Henker muss gestorben sein.
Ei, wie leid, die kennt so gut.
Hat einen Trauermantel um,
hat einen Trauermantel um.
Quanto velocius affugiunt,
caduca et
vana.
Nous sommes en Saxe vers 1740, lors d'un banquet de mariage, et nous entendons un quod libet. Qu'est-ce que donc un quod libet ? C'est une pratique musicale qui date du Moyen-Âge, une improvisation par des musiciens professionnels ou d'excellents amateurs, qui assemblent, enfilent, emmêlent des airs populaires ou religieux, si possible sans qu'on voit trop les coutures, et pour produire un effet réjouissant, pas forcément subtil. Dans les réunions familiales des Bach, génération très prolifique de musiciennes et musiciens, c'était une coutume bien établie et le premier biographe de Jean-Sébastien, Nikolaus Forkel, confirme qu'ils chantaient tous à la fois et sans aucune préparation des chansons populaires dont le sujet était partie comique, partie facétieux. La chose était pourtant combinée de sorte que les nombreux airs ainsi improvisés formassent entre eux un ensemble harmonieux, quoique les paroles fussent différentes dans chaque partie. Ce chœur improvisé, qu'ils appelaient quod libet, excitait chez eux un rire aussi cordial et irrésistible que parmi les personnes qui composaient l'auditoire. Tiens, il recommence. Deux chansonnettes bien connues, non dépourvues de sous-entendus et grillards, pour un mariage tout de même. « Choux et raves m'ont fait fuir, si ma mère avait fait cuire la viande, je serais resté plus longtemps. » Et puis « Ça fait si longtemps que je n'ai pas été chez toi, reviens, reviens, reviens !» Jean-Sébastien ne perd rien et n'en fait qu'à sa tête. Comme toujours, d'ailleurs tous ses employeurs pourraient en témoigner. Il fait ce qui lui plaît et lorsqu'il achève ses variations Goldberg en 1741, la 30e et dernière variation, juste avant la reprise de l'aria, revient, et justement une plaisanterie musicale, un quadlibet, celui que nous venons d'entendre chanter. C'est à la fois une variation sur le thème de l'aria, mais aussi un canon à trois voix, avec les deux chansons entremêlées et des enchaînements harmoniques subtils. Autrement dit, une musique d'une totale inventivité et liberté, pleine d'humour populaire et sophistiqué, et assemblé en cumulant toutes les contraintes formelles à la fois. Quel couturier du très grand art, la 30e variation par Glenn Gould à Salzbourg en 1959. Eh bien finalement, ça ne s'est pas mal passé, malgré l'ébriété de la famille Bach, et notre pianiste canadien un peu chanteur était bien remis de sa 29e variation, et à son meilleur m'a-t-il semblé vraiment souverain. Oui, c'est vrai, certains me font remarquer que nous n'avons pas du tout progressé sur l'importante question de l'effet de la 29e variation sur la santé mentale. C'est vrai, mais ce n'était pas le sujet du jour.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Poursuivons notre libre vagabondage couturier et poursuivons avec des variations. De Bach à Beethoven, des variations Goldberg aux variations Diabelli. En 1819, une cinquantaine de personnalités de Vienne et de l'Allemagne musicale, dont Liszt qui n'a que 11 ans, compositeurs ou pianistes, professionnels ou amateurs, et parmi eux aucune femme d'ailleurs, reçoivent d'Anton Diabelli, éditeur et compositeur de renom, une feuille de papier. Les trois quarts du verso sont un thème et il demande à chacun de lui renvoyer la feuille complétée par une variation écrite sur ce thème. Beethoven, connu lui aussi pour faire ce qui lui plaît, se lance dans la composition non pas d'une variation mais de 33 qu'il publie en 1823. Et ce n'est que l'année suivante que Diabelli, un peu déçu par cette manière, publie les autres variations. Les variations Diabelli sont l'ultime chef-d'œuvre pour piano de Beethoven, sourd et devenant aveugle. Il a manifestement eu connaissance des variations Goldberg et la 31e variation Diabelli rivalise d'ailleurs avec la 25e variation Goldberg dans l'art de varier un thème en se contraignant à le respecter tout en assemblant, en cousant une musique d'une inventivité, d'une diversité de climat et d'affect qui impressionne notamment par cette totale liberté purement rhapsodique au point que si on ne le sait pas, il est impossible de deviner qu'il s'agit d'une œuvre écrite dans les respects d'une telle contrainte. Je vous propose d'écouter le thème de Diabelli, suivi pour entendre le contraste avec Beethoven d'une variation écrite par un autre compositeur. Nous avons choisi la 31e de la publication de Diabelli, composée non sans talent par l'allemand Johann Peter Pixis, puis la 31e variation Diabelli de Beethoven, et pardon à tous ceux qui ne comprendront pas, j'en suis d'ailleurs que nous n'écoutions pas immédiatement après enchaîner l'admirable fugue de la 32e variation, ce sera pour un autre dimanche. Diabelli, puis Pixis, puis Beethoven.
Thank you.
la correspondance de 15h21. Plutôt bohémien ou plutôt rhapsodique ? La correspondance de 15h21 nous mène aujourd'hui sur la piste de la rhapsodie et il n'est pas certain que l'on le conduise en bohème, nous verrons. Nous n'avons pas résisté à l'aura sans pareil d'une œuvre musicale magnifique, connue par plusieurs milliards d'auditeurs, dont nous dit-on une large majorité d'êtres humains. Une petite précision terminologique d'abord. En musique, rhapsodique a deux significations qui se combinent, bien d'ailleurs. Il s'agit d'une œuvre vocale ou instrumentale d'inspiration libre, avec des thèmes juxtaposés, et ou d'une musique d'inspiration populaire sur des thèmes nationaux, régionaux. Il en est de même pour bohémien, qui se dit d'un natif de Bohème, mais aussi d'un artiste vivant sans règles au jour le jour, hors des contraintes sociales. Là aussi, ça n'est pas antagoniste. Il existe sûrement des bohémiens de surcroît bohémiens, voire même des bohémiens bohémiens et portés sur le rhapsodique. Revenons à notre œuvre musicale. Auteurs et commentateurs à jeun nous assurent que le texte n'est pas porteur de sens. Bon, focalisons-nous sur la musique.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes.
Comme vous l'entendez, début par un chœur à quatre voix a cappella dans un lumineux si bémol majeur, rejoint par un piano et puis par un soliste, un ténor. Puis une ballade, comme la musique médiévale ou la musique romantique nous en ont livré d'aussi belles. Modulation en mi bémol. Troisième section, avec un bref solo qui n'est pas confié à des ondes Martenot, comme on pourrait l'entendre, mais à une guitare électrique virtuose. Retour à la tonalité de si bémol majeur. Après cette belle descente chromatique, brutal changement, nous sommes en la majeur et cela ouvre une section à faire pâlir d'envie, grâce à un extraordinaire travail de studio, tous les compositeurs du milieu et de la fin du XVIe siècle, les Thalys, les Stridio, qui ont composé des œuvres à 40 et même à 60 voix différentes. Cette quatrième section est une rhapsodie dans la rhapsodie, avec succession d'épisodes très contrastés du point de vue rythmique et harmonique, mais aussi, s'agissant de la réalisation instrumentale et vocale, avec une amplitude du plus grave au plus aigu en voix de fossé.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
La cinquième section surgit brusquement à l'imitation de certaines sections du Sacre du Printemps avec de courts motifs rythmiques staccato et ostinato de la guitare électrique. Ça par trois montées chromatiques de la guitare. Réapparition soudaine du piano et du chœur, c'est le début de la sixième section avec une très rapide récapitulation du climat musical des quatre parties précédentes. Et une péroraison dans le climat de l'introduction, piano et ténor soliste qui chantent « Nothing really matters » que l'on pourrait traduire à peu près comme « Quod libet » en latin. Et puis la dernière phrase, « Anyway the wind blows », qu'importe où souffle le vent, disparaît sur le son d'un tam-tam. Avons-nous entendu quelque chose de comparable depuis le Stylus Fantasticus d'un Buxtehude ? Quelle musique ! Et la bohème dans tout cela, c'est vrai, nous l'avons un peu perdu de vue.
France Musique, Mazette, quelle musique ! Jean-Yves Larouturou.
Coupe et fais ce qu'il te plaît. Magnifique compositeur né en Bohême et mort en exil en 1959, compositeur trop négligé pour mon goût, en France notamment, Martinů émergea sur la scène musicale de la toute jeune République tchécoslovaque, on était en 1918, avec sa rhapsodie tchèque pour baryton, chœur et orchestre, une œuvre imposante, pas tout à fait originale encore, mais qui lui valut beaucoup d'éloges. Au printemps 1952, 34 ans plus tard donc, Martinů compose la Rhapsodie Concerto pour alto et orchestre. Martinů, compositeur très original, qui jamais ne ralliera aucune des avant-gardes du XXe siècle, ouvre avec cette œuvre son ultime grande période créatrice. Un néo-romantisme très personnel, au style lyrique, de plus en plus rhapsodique, non pas au sens de la couleur locale, au contraire, mais au sens de l'assemblage très libre, sans contrainte préexistante. L'œuvre crée sa forme, pleine de fantaisie, de changements, de tons et de registres. C'est un des plus beaux concertos pour alto du répertoire, je crois, et un des chefs-d'œuvre de la dernière période de Martinů, avec des réminiscences notamment de son opéra Juliette et la clé des songes. De la haute couture, très libre d'inspiration, le soliste est Maxime Rizanov et l'orchestre symphonique de la BBC est dirigé par un très grand bohémien, Jiří Belohlávek.
Thank you.
coup et fais ce qu'il te plaît, de l'artisanat musical génial, inventif et totalement libre. L'émission se termine et sur la page Mazette Quelle Musique du site de France Musique, vous le savez, vous trouvez toute la programmation musicale d'aujourd'hui, la réécoute, le podcast de cette émission et de toutes celles qui l'ont précédée. Pour cette émission, chacun faisait ce qui lui plaisait, mais avec ou sans un petit ouvrage de couture sous la main, la fine équipe était là, bien sûr, Laurent Lefrançois à la réalisation, Cédric Châtelut à la technique et Nelly Portal pour le site. Excellente semaine sur France Musique, cousez, faites ce qu'il vous plaît. Nous nous retrouvons même lieu, même heure, dimanche prochain. Et dans moins d'une minute, Brut d'accordéon par Félicien Brut, ça nous plaît.
À réécouter sur francemusique.fr.